Que le nom du Seigneur soit béni. Sa présence est encore au milieu de nous. C'est elle qui nous fait du bien. Que sera-ce le ciel quand nous passerons l'éternité avec lui? Quand déjà sa présence ici-bas réconforte nos âmes, console nos cœurs, fortifie notre foi, nous donne une assurance inébranlable de ce qu'un jour nous le verrons face à face. Cette espérance est pour chacun d'entre nous, que chacun puisse faire le pas nécessaire avant qu'il ne soit trop tard, car le jour vient, un jour ce sera trop tard. C'est pourquoi nous voulons être prêts lorsque Jésus revient. Es-tu prêt? Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. C'est là une pensée solennelle. Et la méditation de la parole de Dieu ce matin aura pour thème la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. La puissance de la croix. Le message central de l'Évangile est la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Tous les apôtres ont annoncé cela. L'apôtre Pierre, dans sa première épître aux Corinthiens, au chapitre 15, voici ce qu'il dit. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. on peut croire en vain si nous ne croyons pas l'Évangile tel que les apôtres l'ont enseigné. C'est pourquoi l'apôtre revenait continuellement là-dessus et il leur dit ce qu'est cet Évangile. Au verset 3, voici ce qu'il dit. « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. » Amen. L'apôtre Pierre aussi met un accent tout spécial sur la croix de notre Seigneur Jésus. Dans sa première épître, Épître de Pierre, au chapitre 2, à partir du verset 21, « Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, lui qui, injurié, ne rendait point d'injure, maltraité, ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris, car vous étiez comme des brebis errantes. Mais maintenant, vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Amen. La Bible nous compare à des brebis. Le prophète Ésaïe, au chapitre 53, nous dit « Nous étions comme des brebis errantes. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. » Naturellement, l'homme est comme une brebis égarée. Chacun suivant sa propre voie. Dans ce simple passage, ce verset que je vous donne maintenant et qui se trouve dans Ésaïe 53, il y a la définition même du péché. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivant sa propre voie. Voilà le péché. Le péché, c'est suivre sa propre voie. C'est faire sa volonté au lieu de faire la volonté de Dieu. Autrement dit, le péché, c'est un état de rébellion à l'égard de Dieu. Beaucoup de gens pensent qu'ils ne sont pas pécheurs parce qu'ils n'ont pas commis de crime, parce qu'ils n'ont pas, soi-disant, menti ou volé, et qu'ils n'ont pas commis des péchés graves. Ils se disent, voyons, je n'ai pas commis ces péchés graves que beaucoup commettent. Je ne suis donc pas un pécheur. Ces choses-là, mes amis, ce sont des choses graves. Ce sont les fruits du péché. Mais il y a quelque chose de plus important encore. Il faut découvrir ce qu'est la racine même du péché. Pour bien comprendre le sacrifice de Jésus, il nous faut comprendre ce que veut dire le péché. Certains sont même allés jusqu'à dire il y a le péché mortel et le péché véniel, comme s'il y avait deux sortes de péchés. La parole de Dieu est tout à fait ignorante d'un tel langage, si bien que s'il y a des péchés graves et des péchés qui ne sont pas graves, alors, comme beaucoup pensent qu'ils n'ont pas péché de péchés graves, chacun pense être justifié en se plaçant avec ceux qui, soi-disant, n'ont jamais commis des péchés graves. Mes amis, une telle distinction n'est jamais faite dans la Bible, au contraire. Romains, chapitre 6, verset 23, nous donne cette pensée, car le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Autrement dit, aux yeux de Dieu, il n'y a pas des péchés mortels et des péchés véniels. Tous les péchés sont mortels. Tous. Le plus petit, comme nous pensons à nos yeux, comme le plus grave, tous les péchés sont mortels. La parole de Dieu dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le péché nous sépare de la présence de Dieu, car Dieu est un Dieu saint. Et nous, nous sommes des gens pécheurs par nature. Nous sommes séparés de Dieu. Et nous devons bien comprendre ces choses. Et nous étions tous errants. Chacun suivait sa propre voie. N'avez-vous pas dit une fois dans votre vie, moi je l'ai dit certainement, n'avez-vous pas dit une fois à vous-même ou à quelqu'un d'autre qui vous demandait quelque chose, vous lui avez répondu, c'est ça. Vous lui avez répondu, je fais ce que je veux. Tu n'as rien à me dire, je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux. Cette simple déclaration révèle la nature même du péché. C'est cela le péché. C'est dire, je fais ce que je veux. Mais tu n'as pas été créé pour dire, je fais ce que je veux. Tu as été créé pour dire, je fais ce que Dieu veut. Je fais ce que Dieu veut. J'ai été créé pour faire ce que Dieu veut et non ce que je veux. Et tous les malheurs, tous les tourments, toutes les guerres, toutes les souffrances qu'il y a dans ce monde proviennent de cette attitude. Je fais ce que je veux. Personne n'a le droit de me dire quoi que ce soit. De quoi tu t'occupes, toi ? Je fais ce que je veux. C'est cela le péché, mes amis. C'est à cause de cela que tous les êtres humains sur la terre sont séparés de Dieu. Et à cause de cela, il y a des souffrances, il y a des tourments, il y a des problèmes insolubles dans ce monde. Pourquoi ? Parce que l'homme veut faire ce qu'il veut au lieu de faire ce que Dieu veut. Et lorsque nous comprenons le sacrifice de Jésus, alors nous réalisons une chose, c'est que le péché, ce n'est plus je fais ce que je veux, mais le remède au péché, c'est désormais je veux faire ce que Dieu veut dans ma vie. Et la repentance, c'est cela, c'est passer de cet état de dire désormais je ne veux plus faire ce que je veux, mais je veux faire ce que Dieu veut. C'est cela, la vraie repentance. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui demandent pardon au Seigneur, mais qui continuent de vivre leur vie comme ils veulent, n'est-ce pas vrai ? Comme ils l'entendent, ils font comme ils veulent. Ils demandent pardon, ils prient même Dieu, ils peuvent même aller à l'église. Mais le cœur même n'est pas changé. Ils font toujours ce qu'ils veulent. Vous pouvez demander pardon à Dieu pendant 107 ans et toujours rester un pécheur. Qu'est-ce que la repentance du péché ? C'est dire, non plus je fais ce que je veux, mais je veux désormais faire ce que Dieu veut. Et c'est alors qu'il y a un changement radical dans notre vie, n'est-ce pas vrai ? C'est cela la vraie repentance. Beaucoup de gens disent, je crois en Dieu, mais ils font tant de choses qui déplaisent à Dieu. Ce n'est pas le tout de dire, Seigneur, je t'aime, je crois en toi, je crois en Dieu, je vais même à l'église, je prie même de temps en temps. Cela n'a aucune valeur aux yeux de Dieu. Quand on continue de faire ce qu'on veut, au lieu de faire ce que Dieu veut, le péché, c'est la rébellion. Le péché, c'est se détourner de Dieu pour faire ce qu'on veut au lieu de faire ce que Dieu veut. Et quand on dit « Je me repens de mes péchés, Seigneur », cela veut dire à partir de maintenant, ma vie ne sera plus dirigée par moi-même, mais elle sera dirigée par toi. Je ne serai plus le centre de ma vie. Toi, Jésus, tu seras le centre de ma vie et ta parole sera ma boussole. Ta parole sera la vérité qui me conduira. Me voici, je suis prêt à tout changer, à ne plus vivre comme avant, mais à changer littéralement, totalement de vie. Alléluia! C'est pourquoi un vrai chrétien, c'est quelqu'un qui a expérimenté un changement radical dans sa vie. C'est quelqu'un qui allait dans telle direction, et lorsqu'il a entendu l'appel de la croix, il change carrément de direction et va en direction du ciel. L'homme est né en tournant le dos à Dieu. L'homme est né en tournant le dos à Dieu. Nous sommes nés avec une nature pécheresse. Nous tournons le dos à Dieu de par notre naissance. Si nous tournons le dos à Dieu, où est-ce que nous allons? Nous allons en enfer. Ce chemin-là nous conduit en enfer. Vous allez peut-être me poser la question, mais qu'est-ce que je dois faire pour être perdu? Tu n'as rien à faire. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être perdu? Vous n'avez rien à faire. Vous restez tel que vous êtes. Et vous êtes sur le chemin de la perdition. Vous n'avez rien à faire. Mais monsieur, qu'est-ce que je dois faire pour être perdu? Tu n'as rien à faire. Continue comme ça. C'est le chemin qui te mène à la perdition. C'est pourquoi la repentance, c'est un changement de direction. L'homme, par nature, est sur le chemin de l'enfer. Mais Jésus, dans son amour, est venu planter une croix sur ce chemin-là. Et il te dit, arrête ton chemin. Te mène en enfer. Arrête là. Stop. Change de direction et prends la direction du ciel. Alléluia. Et c'est à la croix qu'il y a ce changement qui peut s'opérer. Nous devons bien comprendre le message de la croix. L'apôtre Paul, bien souvent, le disait, « Je ne veux savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Lui-même, l'apôtre, le disait, « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. » La puissance de Dieu. Que faut-il comprendre dans la croix? J'aimerais vous donner brièvement quatre vérités importantes que vous devez saisir pour comprendre ce qu'est la croix. Car écoutez-moi bien, mes amis, si nous ne comprenons pas le message de la croix, tel que les apôtres l'ont enseigné, toute la Bible sera un livre fermé. Toute la Bible vous sera incompréhensible. Toute la Bible peut être lumière pour vous, peut être révélée à vos yeux si vous comprenez le message de la croix. C'est la croix qui nous ouvre les clés de tous les mystères de la parole de Dieu. Connaître la croix, c'est connaître le cœur de Dieu. Connaître la croix, son véritable message, c'est connaître le message de Dieu, c'est connaître l'évangile, c'est connaître ce que les apôtres prêchaient. Mais il ne faut pas une mauvaise compréhension de la croix. La croix n'est pas un fétiche que l'on peut porter sur soi ou avoir dans sa maison en disant, voyez-vous, je suis chrétien, moi. Regardez la croix. Voyez-vous, je suis chrétien, je la crois ici. Et puis la personne vit dans le péché. Elle fait ce qu'elle veut au lieu de faire ce que Dieu veut. Cette personne fait fi de la parole de Dieu. Elle fait des choses qui déshonorent Dieu. Mais non, la croix, c'est quelque chose de magique. C'est comme un fétiche, une superstition. Il y en a qui vont même mettre une croix dans leur Bible. Ça portera bonheur. Mes amis, si quelqu'un a une telle compréhension de la croix, il n'a rien compris. C'est vital. Et il y en a d'autres qui diront, « Ah, mais la croix, bon, ben, c'est Jésus qui est mort pour le monde entier. C'est Jésus qui est mort pour tout le monde. Et puis sans plus. C'est vrai que Jésus est mort pour tout le monde, mais cela n'est pas suffisant de dire que Jésus est le sauveur du monde entier. Il y a beaucoup de gens qui disent cela. N'avez-vous pas remarqué quand ils parlent de la croix? Ah oui, oh oui, c'est Jésus. C'est la manifestation de son amour pour le monde entier. Il est mort pour les péchés du monde entier. Mais une telle déclaration ne sauvera pas cette personne. Dire que Jésus est mort pour les péchés du monde entier ne vous sauve pas. Savez-vous que même le diable peut dire cela? Ah bon? Qu'est-ce que vous me dites là? Première fois que j'entends ça. Que même le diable peut dire que Jésus-Christ est mort pour les péchés du monde, c'est vrai. Le diable peut dire que Jésus est le sauveur. Il y a beaucoup de gens, quand ils regardent la croix, ils disent, voilà, c'est le sauveur, ça. C'est le sauveur du monde. Mais savez-vous que le diable aussi peut dire qu'il est le sauveur? Que Jésus est le sauveur? Savez-vous que le diable peut dire que Jésus est mort pour les péchés du monde? Mais il y a une chose que le diable ne peut pas faire. Et ne dira jamais, sinon il serait plus diable. C'est ne pas dire Jésus est le sauveur, mais que Jésus est mon sauveur. Quand on regarde la croix, ce n'est plus une affaire de généralité. Nous sommes personnellement concernés par la mort de Jésus-Christ. Vous ne faites pas à Dieu une faveur lorsque vous dites « c'est le sauveur du monde ». Et certains pensent, voyez-vous, moi je ne suis pas quand même un païen, je ne suis pas un rebelle, Jésus c'est le sauveur, je le crois. Vous ne faites aucune faveur, parce que le diable peut dire cela. Mais il y a une chose que le diable ne peut pas dire, Jésus est mon sauveur. Est-ce qu'il peut le dire le diable? Il ne peut pas le dire, parce que le jour où il accepte Jésus comme son sauveur, il ne serait plus le diable. Mais il ne veut pas accepter comme Jésus son sauveur. Il a décidé d'être un rebelle pour toujours et de conduire des multitudes d'hommes et de femmes dans la rébellion pour les conduire en enfer. Voyez-vous la mort de Jésus? Ah, il est mort, c'est le sauveur. Il est mort pour les péchés du monde. Mais mes amis, ce n'est pas là la véritable compréhension de la croix. Parce que le diable aussi peut dire que Jésus est le sauveur, mais il ne peut pas dire Jésus est mon sauveur. Il peut dire Jésus est mort pour les péchés du monde entier, mais il ne peut pas dire Jésus est mort pour mes péchés. N'est-ce pas vrai? Le diable ne peut pas le dire. Est-ce que vous pouvez dire ce matin, personnellement, que Jésus est mort pour mes péchés, qu'il est mon sauveur? Qu'il a porté mon jugement, ma condamnation, ma haine, ma honte, ma souillure. C'est ce qu'il a porté sur la croix. Christ est mort pour nos péchés, pour tes péchés. Une véritable compréhension de la croix fait que ce qui s'est passé à la croix, ça s'est passé pour vous, à votre place. C'est un événement extraordinaire. Nous devons en avoir une compréhension, non pas générale, non pas même avoir une approbation générale de ces choses, mais une compréhension bien précise, claire et nette. Il y en a aussi qui ajoutent quelque chose à la croix. Vous savez, le diable ne veut pas que vous compreniez exactement le message de la croix. Parce que c'est là que se trouve le salut, ton salut. Le diable ne veut pas, il veut pervertir ta compréhension de la croix. Il dit aussi à certains, bon, c'est dans le monde entier cela, je ne vous donne pas des choses, vous le savez comme moi, mais il est bon de le rappeler. Certains vous diront, mais moi je crois en la croix. Je crois que Jésus est le sauveur. Et quand on leur dit, ah bon, il est ton sauveur? Oui, il est mon sauveur. Alors comment es-tu sauvé? Eh bien, je crois que Jésus est mort pour moi. Mais pour être sauvé, il faut que je fasse beaucoup d'œuvres. Il faut que je fasse du bien. Il faut que je souffre. Il faut que je fasse du bien aux pauvres. Il faut que j'ai une bonne moralité. Voyez-vous, ils disent qu'ils sont sauvés par la croix, mais ils ajoutent quelque chose à la croix. Ils ajoutent quelque chose au sacrifice de Jésus, comme si le sacrifice de Jésus n'était pas suffisant. Voyez-vous la séduction ? La parole de Dieu dit, et c'est l'apôtre Paul qui le dit, Éphésiens 2, 8, 9, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est point par vos œuvres, afin que personne ne se glorifie. Alléluia ! Ce n'est point par vos œuvres, afin que personne ne se glorifie. Et laissez-moi dire une chose, mes amis. Il y en a des millions dans la religion qui mettent leur confiance dans leurs œuvres pour être sauvés, encore aujourd'hui. Ah, ils vous diront, ah oui, Jésus est mort, oui, d'accord, je le crois. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut quand même que je donne un petit coup de main. Il faut quand même un petit coup de pouce. Il faut quand même que je fasse quelque chose pour être sauvé. Est-ce que le cadeau, le salut est vraiment un cadeau ? Gratuit ? Je n'ai vraiment rien à faire ? C'est trop humiliant pour quelqu'un d'orgueilleux. Et surtout pour une personne religieuse qui veut toujours faire quelque chose pour plaire à Dieu. C'est humiliant. Quand vous essayez de donner quelque chose à quelqu'un, la personne vient souvent, « Ah, mais non, combien je vous dois ? Non, il faut que je... Combien je vous dois ? Je veux payer. » Recevoir quelque chose, c'est un peu humiliant. Non, c'est gratuit. Mais comment c'est gratuit ? Non, mais il faut quand même que je te donne quelque chose. Vous voyez, nous avons de la peine à accepter le cadeau de Dieu. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Comme si un don n'était pas gratuit, avez-vous remarqué ? Mais le don gratuit de Dieu, Romains 6, 23, est la vie éternelle. Comme si un don n'était pas gratuit. Mais si la Bible insiste là-dessus, c'est parce que beaucoup disent, Seigneur, j'accepte le don, mais combien je dois payer ? Voyez-vous la contradiction ? On dit, oui, j'accepte le don, mais toute notre vie prouve le contraire. Qu'est-ce que je dois payer ? Qu'est-ce que je dois faire pour payer ? C'est quand même pas entièrement gratuit. C'est un don gratuit. Alléluia ! Gloire au Seigneur ! Et c'est ce que nous devons bien comprendre. Quatre vérités importantes. Quatre vérités. Et pour bien illustrer le message de la croix, je vais vous donner ce petit exemple. Car Jésus prenait beaucoup des paraboles, des exemples, n'est-ce pas ? Il parlait avec beaucoup de paraboles, le Seigneur Jésus. Et les gens étaient obligés de comprendre. Celui qui voulait comprendre, il était obligé de comprendre. Il n'y a que celui qui ne voulait pas comprendre qui ne comprenait pas. Il prenait beaucoup d'images. Et pour le salut, je vais vous prendre cet exemple qui va nous révéler justement les quatre vérités importantes de la croix. Si nous comprenons cela, nous avons compris l'essentiel du christianisme et de l'évangile. C'est l'essentiel. C'est l'histoire de deux garçons, enfin deux jeunes gens. Supposons l'un s'appelait Pierre et l'autre Jean. Tous les deux faisaient des coups ensemble. Ils allaient voler très souvent. L'un était riche et l'autre était pauvre. Et pendant des années, ils ont fait des coups. Ils ont volé à gauche, à droite. Mais un devait arriver, arriva. Ils se sont fait attraper. Un jour, il y aura un jugement, n'est-ce pas vrai ? Même si on passe entre les gouttes ici-bas, on ne passera pas entre les gouttes là-haut. Même si nous pouvons échapper la justice des hommes ou le jugement des hommes, nous n'échapperons point le jugement de Dieu. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, nous dit la Bible. Après quoi vient le jugement. Mais eux, ils pensaient que... Allez, encore là. Il y a cette banque là-bas, non, dans la banque, et l'autre, là, le magasin, viens, allez. Tu vois, là, il n'y a personne actuellement. C'est midi, il n'y a personne là. Ils sont en train de manger, viens.
Allez, prends. Il prenait, criait. T'as vu ça? On s'est jamais fait attraper, formidable.
Mais le jour est arrivé, ils se sont fait attraper. On les a mis en prison. Et là, en prison, on leur a dit, bon, vous pouvez sortir de la prison, mais moyennant une somme importante. Une somme très importante. Alors Pierre, supposons que c'était Pierre le plus riche, Pierre dit, ah bon, il vous faut ça comme argent? Pas de problème, mon père, il est riche. Tout de suite, il écrit à son père en disant, papa, je me suis fait prendre, s'il te plaît, envoie-moi un gros chèque de tant d'argent, et puis je serai libéré. Il a écrit, et le mot est arrivé vers le papa tout de suite a fait un chèque. Le lendemain, l'argent a été versé, et notre jeune homme riche sortait de la prison. Mais l'autre, comme je vous l'ai dit, Jean, était pauvre, il n'avait qu'une maman. Et pour être libéré de cette prison, il fallait une grosse somme. La maman étant pauvre, elle ne pouvait pas payer cet argent. Et quand la maman a su cela, elle a dit à son fils, « Fils, on n'a pas l'argent, mais pour te sortir de cette prison, je dois travailler des années maintenant. Pendant des années, je dois travailler. » Et le seul travail qu'elle avait trouvé, c'était dans une carrière où elle devait ramasser des pierres du matin au soir. Ce qui fait que le soir, elle était éreintée, épuisée et blessée par les cailloux qu'elle ramassait. Et tous les soirs, elle allait voir son fils. Et le fils, voyant sa maman épuisée, les mains blessées par la souffrance, les pierres, il disait, « Maman, mais pourquoi tu es dans cet état-là ? » Elle dit, « Mais je suis en train de travailler très dur, mon fils, pour te sortir de cette prison. C'est dur, la carrière, mais il n'y a pas d'autre solution. Je t'aime, je veux que tu sortes de cette prison. » Et les mains de la maman saignaient. La douleur était sur le visage de la maman. Et tous les soirs, cette maman venait voir son fils. Et tous les soirs, ce fils voyait sa maman dans un tel état. « Mais maman, c'est pas possible. Qu'est-ce que tu fais ? Eh bien, c'est pour te libérer. Il n'y a pas d'autre chemin. » Et chaque fois, il voyait les mains ensanglantées de sa maman. Il était en train de voir que s'il fallait qu'il soit libéré, il fallait payer un prix très élevé. Au bout de quelques années, la maman a ramassé l'argent. Elle est venue voir le fils. « Fils, cette fois, j'ai trouvé l'argent. Un beau paquet de billets. » Il dit, « Voilà, allons voir le juge maintenant pour que tu puisses sortir. » Ils sont allés, ils ont payé leurs dettes. On les a laissés sortir. La maman est partie sur son chemin et lui a suivi un autre chemin pour rentrer à la maison. À peine avait-il fait 2-3 virages en dehors de la prison, qui est-ce qu'il rencontre ? Il rencontre Pierre, son camarade, qui avait quitté la prison il y a des années. Et Pierre le reconnaît. « Jean, c'est toi ! C'est toi ? Oui, c'est moi. » Ils se reconnaissent. « Ah, oh, je suis content de te voir. Magnifique, formidable. Justement, je pensais à toi ces jours-ci. Je pensais à toi. Tu pensais à moi ? Ah, c'est bien. Oui, je pensais à toi. Pourquoi ? Pourquoi faire ? J'ai préparé un autre coup. Demain matin, on attaque la banque. Il y a une banque là, dans le village à côté. On attaque. » Quand j'ai entendu ça, il a dit, « Pierre, stop. Tu me demandes de recommencer cette vie comme avant ?» Et il lui a dit ceci, « Pierre, toi tu as été libéré de ta prison parce que ton papa était riche. Il n'y a aucune souffrance. L'argent était là, tu as été libéré facilement. Mais Pierre, sache une chose. Moi, je sors de la prison maintenant. Et pendant des années, ma maman a souffert.
Des années, j'ai vu ses souffrances. Ses mains endolories, blessées, le sang qui coulait de ses mains pour payer ma dette. Il lui a dit, pas question pour moi de recommencer cette vie passée. Sinon, c'est déshonorer les souffrances même de ma mère. Et il a dit, si tu veux suivre ton chemin, vas-y, mais moi, jamais. C'est fini. J'ai été racheté à un grand prix. Je ne peux plus recommencer comme avant. Et ce jeune homme a vécu une autre vie totalement nouvelle. Parce qu'il avait compris à quel prix il avait été délivré et racheté. N'est-ce pas vrai? Il y a là, en miniature, le message de la croix pour chacun d'entre nous, mes amis. Un message tout simple. Nous avons tous péché, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La première vérité est celle-ci. Notre péché mérite le jugement et la condamnation. Ça, c'est la première vérité de la croix. Dieu ne peut passer au-dessus de notre péché comme cela en disant « Ah, le péché, c'est rien ». Comme beaucoup aujourd'hui disent « Mais Dieu est amour ». C'est vrai, Dieu est amour, mais Dieu est juste aussi. Mais Dieu est saint aussi. Nous ne pouvons pas parler de l'amour de Dieu au détriment de sa justice et de sa sainteté. Quand nous regardons la croix, il y a une première vérité. Dieu a en horreur le péché et il doit le juger et le condamner. N'est-ce pas vrai? C'est pourquoi il est dit, Christ est mort pour nos péchés. Pourquoi ces deux jeunes gens sont allés en prison? À cause de leurs péchés. Il en est de même pour nous. Nous avons tous péché et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Nous sommes dans cette prison spirituelle. Cette prison spirituelle, c'est la privation de la présence de Dieu. L'enfer, qu'est-ce que c'est, mes amis? C'est un lieu, c'est sûr, un lieu précis. Mais l'enfer, c'est aussi l'absence de la présence de Dieu. C'est pourquoi, avant d'aller en enfer, certains peuvent vivre l'enfer sur la terre, en attendant de vivre l'enfer dans l'enfer. Qu'est-ce que l'enfer? C'est être privé de la présence de Dieu. Mes amis, première vérité importante, Dieu ne badine pas avec le péché. Et moi, quand j'entends parler certaines personnes religieuses, soi-disant qui connaissent la croix, qui connaissent l'évangile, on leur dit, mais attention, il y a un jour de jugement qui arrive. Ton péché sera jugé. Ah non, mais Dieu est amour. Je m'arrangerai avec lui là-haut. Je lui présenterai toutes mes bonnes actions, toute ma bonne moralité. J'ai préparé tout un discours pour m'adresser à lui. Et je sais bien parler. Je sais bien utiliser les mots qu'il faut. Et il tape sur l'amour de Dieu qui, soi-disant, peut passer au-dessus du péché. En disant, oh, c'est pas si grave. Comme certains disent, c'est le bon Dieu. Comme pour dire, si tu as fait quelques péchés, ouais, c'est pas grave. C'est rien, quand même. Il y en a qui font pire que toi. Alors, ça passera, ne te casse pas la tête, ça passera. Dieu est bon, c'est le bon Dieu. Ça ira, tu crois que ça ira? Oui, oui, ça ira. Dieu est bon, Dieu est amour. Mais la Bible dit que Dieu est aussi un feu dévorant. Ça, on n'en parle pas. Ça, c'est trop méchant, ça. Ah oui, mais c'est la justice de Dieu. Il faut prendre tout le caractère de Dieu. Et non pas seulement un trait de caractère qui nous arrange. La croix, mes amis, c'est cette vérité importante, ne l'oubliez pas. C'est que Dieu jugera le péché, ton péché. Il ne badinera pas là-dessus, car tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Et comme nous sommes tous pécheurs, la Bible dit, il n'y a pas un juste, pas même un seul, même pas à Chambéry ou dans la Savoie. Pas un juste, pas même un seul. Même si vous avez le sentiment d'être juste, Dieu dit que vous êtes injuste. C'est Dieu le juge qui parle, Dieu qui connaît votre cœur, qui vous parle. Et nous ne pouvons pas nous cacher devant la justice et devant la sainteté de Dieu. Mes amis, quand nous lisons la Bible, nous voyons que tous les hommes qui se sont approchés de Dieu ont réalisé leur état de péché. Pierre, à un moment donné, quand il a vu la grâce de Dieu, la puissance de Jésus faire des miracles après une pêche miraculeuse, il lui a dit « Retire-toi de moi, je suis pécheur !» Moïse, dans l'Ancien Testament, Isaïe, le prophète, quand il était dans le temple de Dieu, qu'il a vu la présence de Dieu, il s'est écrié « Malheur à moi, malheur à moi, je suis un homme avec des lèvres impures, malheur à moi !» Paul, l'apôtre, disait « Je sais qu'en moi, il n'y a rien de bon !» Tous ceux qui ont vu Dieu ont réalisé leur état de perdition, la noirceur de leur cœur, devant la lumière étincelante de Dieu. Nous ne pouvons supporter cette sainteté qui révèle la noirceur de notre cœur. Quelqu'un qui dit « Moi, il n'y a rien du tout en moi, tout va très bien », cette personne révèle par ses paroles qu'elle ne connaît pas Dieu, qu'elle n'a jamais été dans la présence de Dieu. Qu'elle n'a jamais été dans la présence de Dieu. Passer une seconde dans la présence de Dieu, j'allais dire un millième de seconde dans la présence de Dieu, et vous tombez à ses pieds en criant « Aie pitié de moi, je suis perdu, je suis perdu !» Mes amis, une première vérité, Dieu jugera le péché. Mais une deuxième vérité, c'est que nous voyons l'amour extraordinaire de Dieu à la croix. Avez-vous vu l'amour de cette maman pour son fils, n'est-ce pas? C'était son fils, il méritait la condamnation, il méritait le jugement. Et elle a tout fait pour l'en sortir, n'est-ce pas vrai? Nous voyons là l'amour extraordinaire de cet être pour son fils, n'est-ce pas vrai? À combien plus forte raison Dieu nous aime? Nous méritons. Ton péché mérite le jugement, la condamnation et l'enfer éternel. Mais deuxième vérité, Dieu nous aime. Il ne veut pas que nous soyons perdus éternellement parce que nous le méritons. Nous devons reconnaître cela. Nous devons reconnaître que nous méritons la condamnation, que nous sommes perdus. Mais deuxième vérité de la croix, à tous ceux qui réalisent qu'ils sont perdus, qu'il mérite la mort, la séparation avec Dieu et l'enfer. Dieu dit, je t'envoie mon fils. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia! À tous ceux qui réalisent qu'ils sont pécheurs séparés de Dieu sous le jugement de Dieu, Dieu dit, car Dieu a tant aimé le monde, je t'ai aimé. Je t'ai donné mon Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Il y a là ce deuxième message, l'amour de Dieu qui ne veut pas que nous périssions, qui ne veut pas que nous soyons perdus. Dieu qui nous aime encore, malgré notre péché, Dieu t'aime. Mais il hait ton péché. Voilà la distinction qu'il faut toujours bien faire. Dieu aime le pécheur, mais il hait le péché. Et tu dois faire cette distinction dans ta vie. Tu as péché, nous avons tous péché. Nous ne devons pas en tirer la conclusion, puisque je suis péché, j'ai péché, Dieu ne m'aime plus. Dieu ne veut plus de moi. Non ! La bonne nouvelle, c'est que Dieu hait notre péché, mais il nous aime personnellement. Amen. Alléluia. Et il veut faire quelque chose, et il a fait quelque chose pour nous sauver. Gloire à Dieu. Dieu hait ton péché, tu dois le haïr aussi. Et le péché par nature, je vous l'ai dit, c'est pas seulement tuer, voler, mentir, parce que beaucoup n'ont pas fait ces choses. Enfin, mentir, ça c'est autre chose. Tuer peut-être, voler peut-être,
Mais mentir, je me demande qui n'a jamais menti. Mais ça, ce sont les fruits du péché. Mais la nature même du péché, c'est la rébellion. Et nous sommes tous des rebelles aux yeux de Dieu. Mais deuxième vérité, Dieu nous aime. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Alléluia. Tu mérites. Ton péché mérite la condamnation. Mais toi, il veut te sauver. Il veut te sauver. Il veut te pardonner. Alléluia. Il t'aime. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Troisième vérité maintenant. Voyez-vous, ces trois vérités sont liées les unes aux autres. Troisième vérité. Comme dans l'histoire de cette maman et de ces deux jeunes garçons, ce sont les souffrances de cette maman qui a sauvé ce jeune homme, n'est-ce pas ? Son travail, son œuvre, qui l'ont sauvé. Lui, il n'a rien pu faire pour être sauvé, vous êtes d'accord avec moi ? Il ne pouvait rien faire, il était condamné. Donc il ne pouvait pas en prison faire quelque chose pour être sauvé, c'est impossible. Avec Dieu, c'est la même chose. Le message de la croix, c'est cela. Dieu nous aime. Premièrement, le péché nous condamne. Deuxièmement, Dieu aime le pécheur, il veut le sauver. Troisièmement, ce sont les souffrances de Jésus seules qui nous sauvent. Amen. À la croix, il est dit, nous l'avons lu, Christ a souffert pour nous. Et plus loin, il est dit, Christ aussi a souffert. 1 Pierre 3:18. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés. Lui, le juste, pour nous, injuste, afin de nous amener à Dieu. Troisième vérité de la croix. Jésus a souffert pleinement, totalement. Seules ses souffrances nous sauvent et nous délivrent de la condamnation éternelle. C'est par ses souffrances et le sang versé à la croix qu'il a payé notre dette. Amen. La dette est payée maintenant. Ce jeune homme ne pouvait pas payer de dette, vous êtes d'accord avec moi? Qu'est-ce qu'il pouvait faire en prison? Il ne pouvait rien faire. Il fallait qu'il y ait un sauveur. Il fallait qu'il y ait quelqu'un d'autre qui paye sa dette. Mais dans le cas présent, avec nous, personne ne peut payer notre dette. Un homme pécheur, une femme pécheresse, ne peut sauver un homme ou une femme pécheresse, jamais. Il fallait que ce soit Dieu. Il fallait que ce soit quelqu'un de saint, de pur, de juste, et qu'il soit Dieu. Et cette personne, c'était Jésus-Christ. Amen. Troisième vérité, ce sont ses souffrances. Par ses souffrances, il a payé ma dette, mon immense dette devant Dieu. Il fallait la mort de Jésus pour que je sois pardonné de mes péchés. Christ est mort pour nos péchés. Christ a souffert pour nos péchés. Quelle libération, vous êtes d'accord avec moi? Quelle libération quand je regarde la croix. Je me dis, c'est à ma place qu'il est mort. C'est moi qui devais être crucifié ou rejeté loin de Dieu à cause de mes péchés. Je vois que ce sont ses souffrances, son sang versé, son sacrifice parfait, l'agneau de Dieu, sans défaut et sans tache, qui a été livré pour le péché des hommes, afin qu'ils soient sauvés et délivrés. Mes amis, vous ne pouvez pas vous sauver vous-même. C'est pourquoi une personne qui croit qu'elle peut se sauver par sa moralité, par sa religion, par ses bonnes œuvres, par le bien qu'elle fait aux pauvres, qu'elle peut se sauver. Cette personne-là déshonore le sacrifice de Jésus. C'est comme si vous disiez, Jésus, oui, tu as souffert. C'est gentil, c'est gentil, c'est gentil, mais ce n'est pas suffisant. Il faut que je fasse quelque chose. Vous déshonorez le sacrifice de Jésus. Quand Jésus est mort sur la croix, il s'est écrié, tout est accompli. Et vous savez ce que le mot tout était accompli veut dire? C'est payé. C'est payé. Encore maintenant, je lisais ce matin, même en Grèce, là-bas, en Grèce, il y a des fois sur certaines factures qui sont payées, il y a un tampon. Et sur ce tampon, il y a un mot grec qui veut dire « c'est payé ». Eh bien, ce mot grec « c'est payé », c'est le même mot que Jésus a employé. Tetelestai, un mot grec. C'est peut-être mal prononcé, mais que ça veut dire « c'est payé ». C'est payé. Autrement dit, Jésus, en mourant sur la croix, a payé ta dette. Ton immense dette, il l'a payée. Alléluia. Alléluia, c'est cela, la bonne nouvelle. Ce que tu ne pouvais pas payer toi-même, Jésus l'a payé à ta place. Ce sont ses souffrances et non les tiennes. Ni tes larmes, ni ta religion, ni tes bonnes intentions, ni ton honnêteté qui te sauvera. Tu ne peux pas te sauver. Tu es pécheur, tu es perdu. Mais ce sont ses souffrances. Il a payé. La Bible dit, nous avons été rachetés à un grand prix. Grand prix. Alléluia. Et tous ceux qui croient au sacrifice de Jésus, qui paye toutes ses dettes, eh bien instantanément, nous sommes pardonnés de nos péchés. Et nous avons la vie éternelle. Et nous sommes en règle avec Dieu par le sacrifice de Jésus. Il est possible d'avoir l'assurance de votre salut maintenant en acceptant que seul Jésus et ses souffrances vous sauvent. Et quatrièmement, je termine. Ce jeune homme, quand il a vu à quel prix il a été libéré, est-ce qu'il est retourné dans son ancienne vie? Est-ce qu'il est retourné à voler encore? Non. Il a dit à son copain, « Toi, continue ta vie de péché, mais moi, c'est fini. » Parce que continuer à vivre dans cette vie de péché, c'est déshonorer tout ce que ma mère a fait. C'est faire fi de tout ce qu'elle a fait. C'est se moquer de ses souffrances. Quelqu'un qui a compris la croix, c'est quelqu'un qui dit désormais, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Quand nous avons compris à quel prix nous avons été rachetés, combien notre péché a fait souffrir le Seigneur, la seule conclusion logique, c'est de dire, moi voici Seigneur, je me repens de mes péchés, j'abandonne ma vie passée, et je veux vivre maintenant une vie nouvelle, entièrement nouvelle, pour te glorifier et pour obéir à ta sainte parole. Alléluia! Voilà le message de la croix, le message qui transforme des vies, le message qui peut révolutionner ta vie. Et Jésus fait de toi une nouvelle personne. Combien se disent chrétiens? Et ils disent, ah, ils peuvent continuer la même chose. Il n'y a aucun changement dans leur vie. Ils continuent de mentir, ils continuent de jurer. Ils continuent de faire des choses qui déshonorent Dieu. Et ils se disent, chrétiens, non, mes amis. Un chrétien est quelqu'un qui a sa vie changée parce qu'il a compris que son péché a fait souffrir le maître. Il y a un changement radical à l'égard du péché, qui est la rébellion. Désormais, nous cessons cette rébellion devant Dieu et nous lui disons, me voici, Seigneur, je me soumets à toi maintenant pour te faire plaisir et pour obéir à ta parole. Amen. Comme ce jeune homme a tout fait pour faire plaisir à sa maman après, n'est-ce pas? Et continuellement, maman, c'est à cause de toi que je suis sauvé. Et nous, c'est la même chose. Jésus, c'est à cause de tes souffrances. C'est pourquoi nous prenons le pain et le vin pour nous rappeler son grand amour pour nous, ses souffrances pour nous. Jésus ne continue pas de souffrir. Il l'a fait une fois pour toutes, il y a 2000 ans. Il n'a plus à ressouffrir. Si nous acceptons cette pensée, c'est comme si on nous disait que finalement, ses souffrances sont inefficace, s'il doit continuer de souffrir. Mais Jésus a souffert une fois pour que nous soyons libérés définitivement, pardonnés de nos péchés, que nous le recevions dans notre vie pour vivre une vie nouvelle, entièrement soumise au Seigneur. Toute rébellion est abandonnée et l'obéissance au Seigneur et à sa parole est notre seul but. Et ensuite, notre message est de dire aux autres ce qu'il a fait pour nous. Amen. Alléluia. C'est pourquoi l'apôtre disait, je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Comment pouvons-nous avoir honte de ce message? Mes amis, jamais, jamais, que Dieu nous aide à bien comprendre ces quatre vérités importantes qui ne peuvent que changer votre vie et changer ce monde. Il n'y a point d'espoir dans ce monde, comme pour chacun d'entre nous, en dehors de l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Et Paul disait, je ne veux savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Non point quelqu'un qui est sur la croix, mais quelqu'un qui est ressuscité des morts. Parce que son œuvre à la croix a été parfaite. Il n'a pas resté sur la croix encore. Il est ressuscité parce que son œuvre a été acceptée par Dieu le Père. Désormais, si nous acceptons l'œuvre de Jésus-Christ, nous serons acceptés aussi par Dieu son Père. Alléluia! Et il nous dira, eh bien, puisque tu acceptes son sacrifice pour le pardon des péchés, comme moi seul j'accepte ce sacrifice qui peut pardonner le péché des hommes, tu seras pardonné également. Mais si nous refusons le sacrifice de Jésus pour nos péchés, mes amis, notre péché demeure sur nous. Ton péché alors mérite la condamnation. Il mérite la condamnation. Mais si tu crois que Jésus est mort à ta place, tu es libéré. Alléluia. Tu ne seras pas condamné parce que Jésus a été condamné à ta place. Mais si tu refuses la mort de Jésus et sa condamnation à ta place, ton péché demeure sur toi et ce sera la perdition éternelle. Fais le bon choix. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, disait l'apôtre. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. La puissance qui nous libère du péché, de la condamnation, de nos chaînes, du diable, de la mort éternelle, de l'enfer éternel. C'est une puissance qui libère et qui nous donne d'être en communion avec Dieu. C'est pourquoi nous pouvons l'annoncer aux autres. C'est une bonne nouvelle. Dieu soit béni pour cette merveilleuse nouvelle et pour la puissance de la croix. Amen.